Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une histoire qui m'est arrivée, qui m'a tellement touché que c'est resté encore dans ma mémoire. Hein. Nous étions en ministère sur Marseille et on m'a appelé donc au chevet d'un homme que je connaissais et les médecins lui avaient dit qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Et donc je me suis présenté à son chevet, c'était assez compliqué, mais le Seigneur a pu. Et cet homme avait vécu à l'époque soviétique. Et sur son lit de malade, il me racontait comment sa mère, une femme de foi, témoignait dans le quartier et tout autour d'elle. Et elle avait, par son témoignage, amené des gens à Christ. Elle avait commencé une église de maison. Et cet homme me racontait, donc il était âgé, il me racontait que lui et ses frères surveillaient les rues et le quartier quand il y avait des baptêmes dans cette maison. Et c'est vrai que, ils surveillaient surtout pour signaler tout suspect qui aurait pu être du KGB, parce que s'il se faisait attraper, il risquait, lui et les gens qui étaient là, tout simplement d'être déportés en Sibérie. Et moi, j'étais vraiment impressionné par son histoire et je lui ai dit, quel courage! Et pourtant, je lui ai dit, tu n'es pas encore converti. Et il m'a répondu quelque chose d'assez troublant. Il m'a dit, je veux pas souffrir comme Job. Ah, j'étais assez estomaqué. Hein. En réalité, cet homme a repoussé la conversion parce qu'il avait peur de souffrir comme Job. Pour lui, se convertir, c'était souffrir. Alors, je pense qu'il avait, soit il a entendu un message qui l'a marqué, soit il avait des exemples autour de lui. En réalité, pour cet homme, Dieu n'avait pas un plan bienveillant à son égard. Parce que, voilà, comment c'est arrivé, en tout cas, c'est ce qu'il a retenu. Même si Dieu lui a fait grâce et il s'est converti un jour avant de mourir, le lendemain, il est décédé, il a donné sa vie au Seigneur, là dans nos discussions que nous avons eues, eh bien même si Dieu a fait grâce, je me suis dit, cet homme est quand même passé à côté de tous les projets de Dieu pour lui. Il a malheureusement négligé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors la question qui va aujourd'hui nous amener à réfléchir devant Dieu, c'est les desseins bienveillants de Dieu à notre égard. Cet homme n'avait pas compris les desseins bienveillants à son égard, et c'est intéressant parce que le feuillet donc d'hier que nous lisons aujourd'hui, faites ça aussi, non ? Oui, pour avoir la date d'aujourd'hui. Si vous enlevez le feuillet d'aujourd'hui, vous aurez la date de demain. Hein? Bon. Donc le feuillet d'hier que nous avons lu aujourd'hui parle d'une personne qui est passée par des épreuves et qui a saisi la bienveillance, les desseins bienveillants de Dieu à son égard. Dieu a des plans pour nous, mais quelles sont ses réelles intentions à notre égard? Et pour cela, je vais lire un texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 1:11. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, nous prions continuellement pour vous. Pourquoi ? Afin que votre foi vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. En sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Paul priait pour que les chrétiens de Thessalonique comprennent et vivent en accord avec l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, pour qu'ils soient trouvés dignes. Et plus encore, que Dieu accomplisse le bon plaisir de sa bonté, ça c'est Darby, ou se meurt, qu'il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien, ou qu'il accomplisse. Alors c'est assez technique ce texte, hein, désolé. Selon la traduction, on comprend pas toujours la même chose. Hein. Semeur, qu'il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien. On dirait que c'est attribué, enfin, le désir est attribué à l'homme, il vient de l'homme. En fait, c'est le travail de Dieu dont il s'agit. Nous retrouvons la même expression, juste pour comprendre, à Éphésiens 1, verset 5. Il nous a prédestinés, on va pas rentrer dans la prédestination maintenant, merci. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de Dieu, Darbidi selon le bon plaisir de sa volonté, et Semeur dit, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour vous. Alors, nous allons expliquer cela. La première fois où j'ai mis les pieds dans une église évangélique, j'avais peut-être 10, 12 ans. Hein. J'étais pas grand. Mes parents m'y ont amené. On ne connaissait pas du tout. Et le prédicateur a parlé des desseins de Dieu. Et moi, j'étais fasciné. Je me suis dit, il va nous montrer des croquis. Waouh! J'ai rien retenu. Seulement que le dessin n'était pas, voilà. Alors pour ceux qui sont jeunes, on va pas parler de croquis, hein, on va parler donc des plans de Dieu, hein, un autre mot, des plans de Dieu. Alors, des projets de Dieu. Voilà les définitions du mot dessein, hein, la détermination de Dieu, hein, ou alors les intentions et les objectifs comme arrière-pensée, hein, c'est le dictionnaire Oterland qui dit, une cause intelligente avec des conséquences remarquables. Ah, c'est cela. Dieu, eh bien, met son intelligence. C'est parler de l'intelligence de Dieu, hein. Ah oui, il a toute sagesse. Met toute sagesse en œuvre pour accomplir un plan remarquable dans nos vies. Alors, Richard ajoute dans son livre, bien sûr, vous l'avez tous, hein. Il en reste encore, hein, à la sortie, si vous désirez. En fait, Richard dit dans son livre Au-dessus de tout nom que le mot traduit, donc par qu'on traduit par soit dessein ou bon plaisir, eh bien, le mot donc grec eudekia, quand on traduit par bon plaisir, est dangereux, parce que parler de bon plaisir de quelqu'un exprime plus souvent sa fantaisie capricieuse. Il y a un risque d'interpréter faussement. Il vaut mieux traduire par son dessein bienveillant. Voilà, je sais pas s'il est en ligne, Richard, on le salue. Voilà. Donc, bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de Dieu, c'est de veiller au bien de l'autre. Qui se montre attentif au bien de l'autre. Alors, l'idée que je comprends, c'est qu'il y a en Dieu quelque chose qui va se mettre en œuvre. Il a décidé une chose unique. Rendu sur terre, il a décidé de faire les choses pour notre bien. Et un des grands miracles de Dieu, une des grandes bénédictions dans nos vies, c'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est quelque chose, hein. Ce matin, Anaël nous a parlé de l'alliance. Hein. L'alliance rapproche. Hein. La filiation de l'adoption, eh bien, rapproche davantage, hein, dans le même cadre de l'alliance, nous rapproche de Dieu. Et comment Dieu le fait-il? Dieu le fait sans contrainte. Avec amour. Dieu nous aime, il a voulu librement, il nous a choisis pour faire alliance alors que nous ne méritions rien. Je ne sais pas quelle distance mesure ta liste de critères, hein, Anaël, mais tu as bien fait de mesurer que Dieu, eh bien, s'il avait tenu ces critères-là avec une liste, hein, nous aussi nous avons des critères, eh bien, il y aurait peu de qualifiés, hein. Son critère était l'amour et de notre côté, la foi. Alors, ce que Dieu désire, c'est de nous voir vivre avec que nous soyons, pardon, tous d'accord de vivre avec cette idée qu'il fait toute chose pour notre bien. Ça, c'est super. Quand tout va bien. N'est-ce pas? Hein? Un examen réussi. Alléluia! Eh oui, lorsqu'on obtient un CDI, hein, on est content, l'arrivée de nouveau-nés, hein, on est content, n'est-ce pas? Voilà, tout cela nous permet de nous projeter avec enthousiasme vers l'avenir et des projets. Et nous déclarons, eh bien, que les intentions de Dieu à notre égard sont bonnes, n'est-ce pas? Et nous chantons, il est bon, je te donne tout. Hein. Et voilà que c'est des moments où nous sentons Dieu beaucoup plus proche de nous et nous le sentons compréhensible. Ah, je comprends Dieu. Hein. Mais quand le ciel s'assombrit, aïe, que le temps fait son œuvre, voilà notre joie qui disparaît, notre paix qui s'effrite et notre foi qui diminue. Quand les jours s'assombrissent, eh bien, quand les épreuves nous tombent dessus, nous pensons peut-être que pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Je ne sais pas comment on peut qualifier les projets bienveillants de Dieu. En tout cas, honnêtement, c'est pas la première pensée qui nous vient. Hein? Et c'est rarement cela à quoi nous pensons. Hein? Pouvons-nous dire dans les moments d'épreuve qu'il y a une intention pleine de bonté de la part de Dieu, alors que c'est difficile? C'est C.S. Lewis qui disait ceci, parlez de la beauté, de la vérité, de la bonté de Dieu, les gens vous suivent, parlez d'une force spirituelle qui inonde tout et dans laquelle nous pouvons tous nous jeter et vous retiendrez un intérêt bienveillant et amical. Mais la température tombe dès que vous citez que Dieu a des desseins bienveillants et qui accomplissent. Des actes et qu'il accomplit des actions particulières, qui fait ceci et ne fait pas cela, alors les gens sont embarrassés et agacés. Compliqué de dire à quelqu'un qui passe par des épreuves, tu sais, ça n'a pas échappé à Dieu et Dieu cherche le meilleur pour toi. Alors, j'aimerais que nous nous posions cette question. Hein, pourquoi l'homme a-t-il tant de mal à considérer les bonnes intentions de Dieu pour lui? Pourquoi vit-il dans cette méfiance vis-à-vis de Dieu? Eh bien, tout d'abord, parce que l'homme est rebelle par nature. Vous le saviez, ça? Non. Il est gentil. Eh oui. Eh non, il n'est pas gentil. Vous n'avez pas vu en vous, des fois, vous ne sentez pas cette rébellion contre Dieu, là? Vous savez, c'est un peu comme de la braise qui est là, hein? C'est curieux, hein? Des fois, on en a une colère comme ça. Et avant la conversion, c'était alors flagrant. Hein? Par nature, nous sommes tous pécheurs. Et tous nos actes manifestent l'état de notre cœur. Au plus profond de nous, en vérité, il y a ce désir de vivre sans Dieu. C'est ce que le diable a proposé à Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. C'est à vous de décider. Nous avons encore le goût du fruit défendu, de l'arbre du bien et du mal. Ça veut dire que nous voulons encore décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais j'ai pas besoin de Dieu pour cela. Et c'est ce que je vais décider est bon pour moi. Le compte rendu que la Bible fait du cœur de l'homme a vraiment quelque chose d'alarmant, voire effrayant. Dès la Genèse, Dieu dit, vit que la méchanceté sur terre était grande et que chaque jour, l'homme, donc le cœur de l'homme, ne concevait que des pensées mauvaises. Ah, ça c'est la nature humaine. Plus tard, c'est à son peuple que Dieu s'adresse, avec qui il a fait alliance. Voilà ce que dit Jérémie. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Voici que vous suivez chacun l'obstination de votre cœur sans m'écouter, dit le Seigneur. Alors Dieu ne dit pas que avec le temps, avec l'expérience, avec l'analyse de nos échecs, nous allons nous améliorer. Hein, vous savez, comme les programmes informatiques, il y a toujours une nouvelle version qui est mieux que l'ancienne. La nouvelle version de l'homme est celle-ci. Voilà, Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Aïe, qui peut le connaître? Alors, on peut même être religieux. Hein? Eh bien, voilà ce que le Nouveau Testament dit, et c'est Paul qui le dit. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, ils sont rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Bien sûr, bonne œuvre selon Dieu. Quelque chose que lui va validé et agréé. Alors cette rébellion contre Dieu, c'est tout simplement le rejet de celui qui veut nous aider, qui veut nous faire rentrer dans ses desseins bienveillants. tout le peuple, dit l'évangile de Luc, c'est Jésus qui parle, hein, a entendu ce que Jean-Baptiste a annoncé. C'est dans Luc 7, 29. Et les péagers ont justifié Dieu. Ils ont dit que Dieu a raison de dire que sans lui, ils sont perdus en se faisant baptiser. Jésus dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Dieu a un dessein bienveillant et l'homme, à cause de sa rébellion, peut rejeter ce dessein. Dieu ne l'impose pas. À cause de notre nature rebelle, eh bien, nous avons du mal à considérer que Dieu a de bonnes intentions à notre égard. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous sommes très méfiants, c'est qu'en fait, nous sommes ignorants. Alors, l'ignorance, on ne sait pas qu'il a de bonnes intentions pour nous. Job parle des ténèbres de notre ignorance. C'est quelque chose, hein? Des ténèbres, c'est dans Job 37, 19. En fait, l'ignorance nous rend aveugles quant à ce que Dieu cherche à réaliser dans nos vies. Pierre, s'adressant au peuple, à plusieurs reprises, déjà dans Actes 7, verset 17, dit ceci, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. » Eh oui, Jésus a dit à la croix, « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous, on est prompt à juger, hein, oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ignorance rend l'homme aveugle. Pierre dira dans son épître, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. » On ne savait pas que l'on freinait, que l'on était un obstacle à ce que Dieu voulait pour nous. Et Paul reprend cela, il dit, « Moi qui étais auparavant lui, donne son témoignage. Pourquoi est-ce qu'il a persécuté l'Église avant de se convertir ? Eh bien, auparavant, dit-il, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, parce que j'agissais par ignorance. » Ah, notre esprit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est nourri matin, midi, soir et toute la journée par les pensées qui règnent dans le monde. Tous les jours, à chaque heure, minute, seconde, nous voyons l'injustice faire la une des journaux. Nous voyons les scandales qui, évidemment, assurent l'audimat, hein, et les affaires sales qui font recette. On nous matraque, matraque, matraque. On a l'impression, vous savez, que le diable, eh bien, est en train d'entretenir constamment la pensée des foules pour les garder dans l'ignorance dans tout ce qui concerne Dieu. Et quand les sujets de Dieu sont évoqués ou sur Dieu, bien souvent, c'est les extrémistes qui s'expriment, hein, ou la politique qui s'en mêle. Et on dit, voilà, Dieu, c'est de l'intolérance. N'est-ce pas? Vous savez, on dirait comme un magicien. Hein, il fait toujours, il attire notre attention en faisant quelque chose et il manipule autre chose avec l'autre main. Éphésiens 4, 18 nous dit, Paul, qu'ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. C'est bien l'ignorance qui éloigne l'homme de Dieu. Vous vous rappelez de ce jeune homme qui est venu avec Jésus avec son ignorance. Et il pose cette question absolument fondamentale, qui est toujours d'actualité. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle? Ce jeune homme que Jésus a aimé, en le voyant, a reçu une réponse. Hein? Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Je pense qu'à cet instant, il a regretté sa question. Hein? Ah, là, il y a des réponses qui nous gênent, n'est-ce pas? Eh oui, il a regretté. Il est reparti tout triste. En réalité, ce jeune homme qui est venu ignorant est reparti ignorant. Il a ignoré que ce que Dieu voulait pour lui allait lui accorder beaucoup plus de bénédictions que sa richesse matérielle. Combien de fois ai-je entendu des personnes et des jeunes me dire, mais alors, sincèrement, hein, la chose suivante, je ne sais pas si ce que Dieu me propose fera mon bonheur. Ah, je ne sais pas. Job disait, les ténèbres de notre ignorance. On est tellement méfiant, on ne sait pas. C'est une bonne affaire de suivre Jésus, parce que j'en connais qui l'ont fait, et qu'est-ce qu'ils en bavent, hein? Et ils ont l'air contents. Non, c'est une vraie, un vrai travail de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Alors après la rébellion, l'ignorance, un troisième et dernier point, c'est l'homme a du mal à considérer les bonnes intentions de Dieu envers lui à cause de l'incrédulité. Ah, l'incrédulité. Hein? Paul dit dans Timothée, vous rappelez, parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Je ne crois pas et je suis opposé à l'idée que ce que Dieu veut pour moi est bon. Voilà, c'est clair. Hein? L'incrédulité, c'est la bombe sale du diable. C'est son arme, alors, vraiment préférée. Hein? Parce qu'elle est dévastatrice, cette incrédulité. N'oublions jamais que le diable a une grande activité dans ce monde, une grande autorité. Hein? Et sa tactique consiste toujours à discréditer Dieu. Hein? C'est, et qu'est-ce qu'il nous propose? Le salut de l'homme par l'homme. On va y arriver. On met Dieu de côté et on va y arriver. Alors, il existe de nombreuses visions du monde, hein? Quelques-unes, hein? L'humanisme des siècles des Lumières, le communisme avec son sens du partage, le capitalisme et sa croissance économique, la science et ses solutions sans effet secondaire, le syncrétisme religieux avec un Dieu unique, le wokisme qui prône une nouvelle humanité. Tout ça, en réalité, je me demande si tous ces courants idéologiques ne sont tout simplement pas une tentative de nous proposer le bonheur et la paix, mais sans Dieu. On veut pas de Dieu. Mais nous, on veut bien faire. Des nouvelles tours de Babel. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Ce que les hommes ont fait, ils le feront encore. Et ils le font. En réalité, si notre monde est si sombre, ce n'est pas dû à l'incapacité de Dieu, mais bien à l'incrédulité qui aveugle le cœur de l'homme à cause du péché et du mal. La bienveillance de Dieu est là. Nous le lisons, nous le chantons, nous le proclamons. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur. Ce que Dieu veut, c'est la vie du pécheur. Il est le péché, mais il aime le pécheur. Et si on a besoin d'avoir un échantillon de la bienveillance de Dieu, regardons Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a prouvé sa bienveillance envers les plus humbles, les délaissés, les mis à l'écart. Cette femme qui était samaritaine, cet homme Zachée qui était plutôt du côté des Romains, hein, même envers ses bourreaux à la croix, Jésus a été bienveillant. Et même envers un brigand à ses côtés, Jésus a exprimé de la compassion. Dieu est un Dieu bienveillant. Et c'est ce que Pierre rappelle. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, il l'a envoyé pour vous bénir. Ah, Jésus a été envoyé pour nous bénir. Alors voilà que cette bénédiction n'est pas chose nouvelle. On l'a vu à travers l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Genèse 17. Oui, j'étais au courant qu'Anaël avait parlé d'alliance, hein. Donc, à travers l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, et puis cette alliance a continué avec David, et puis le peuple, les prophètes, jusqu'au salut. Mais mon frère, ma sœur, la bienveillance de Dieu ne s'arrête pas juste au salut de nos vies. Parfois, nous limitons. Dieu a été bienveillant jusqu'à. Avons-nous saisi que les intentions de Dieu sont bienveillantes à notre égard? Si nous l'avons saisi, est-ce que c'est juste intellectuellement que nous avons compris cela? Qu'en est-il de notre adhésion de cœur? Et si nous avons adhéré, quelles sont les limites que nous fixons à la bienveillance de Dieu? Alors, après avoir vu ce qui était un frein pour accueillir, la question c'est comment maintenant pouvons-nous accueillir les desseins, les projets, les intentions de Dieu qui sont bienveillants? Eh bien, tout d'abord, en laissant Dieu nous former. Eh oui, nous avons été sauvés, alléluia, Mais Dieu ne veut pas que nous restions ainsi. Il a tellement à travailler dans le caractère de ma conjointe. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'était dans la liste. Hein? Eh oui, non, mais il a déjà travaillé dans mon caractère. Et dans ton caractère aussi. Hein? Eh oui. Le salut sans le travail de Dieu dans nos vies, en réalité, est incomplet. Parce que le salut, c'est pas juste être sauvé comme a pu bénéficier le brigand à la croix. Hein? Le travail de Dieu concerne notre être. Et parfois, je sais pas vous, mais moi, je suis découragé. Comment est-ce qu'il fait? Ou jusqu'où va-t-il me supporter? Hein? Et nous-mêmes, parfois, nous ne voyons pas de progression à ce niveau. Et pourtant, le but de Dieu est de nous former. Dieu, en réalité, n'est pas notre ennemi. Il n'est pas celui qui attend que tu fasses un mauvais pas juste pour te reprendre. Il ne cherche pas à t'abattre ou à nous abattre. Il veut notre bien, et notre bien passe aussi par la formation. Que dit David dans le psaume 32 ? Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et il ajoute, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Hein? Voilà, Dieu nous forme. Et oui, parce que nous partirions à l'opposé de ce qu'il veut pour nous. Comment accueillir les desseins bienveillants de Dieu? Eh bien, en renonçant à notre indépendance. Nous oublions bien souvent que quand Jésus est venu et nous a convaincus de notre péché, du jugement qu'on avait à subir, auquel nous avons échappé grâce à lui, eh bien, nous oublions bien souvent que nous sommes appelés à vivre pour lui. Et non pas pour nous. Nous sommes morts à nous-mêmes. Et nous vivons en lui. Nous ne nous appartenons plus. Même si parfois il reste dans nos cœurs un vestige de « j'ai un peu envie de faire ce que je veux hein », d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Alors je crains que cette lutte nous accompagne toute notre vie. Dois-je me donner totalement à Dieu hein? Et oui, jusqu'au dernier jour de notre vie, il y aura ce combat de se donner totalement à Dieu, à renoncer à nous-mêmes. Et nous pouvons compter, Dieu merci, sur sa grâce et son aide. Que dit l'apôtre? Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Moi, j'ai envie, je prie Dieu, et Dieu va m'aider à le faire. Comme il a dit dans Thessaloniciens, que nous avons lu, c'est lui qui vous rend digne de son appel et qui prie afin qu'il accomplisse en vous avec puissance son travail. Comme Jean-Baptiste qui demande à diminuer afin que lui grandisse, telle devrait être notre prière tous les jours. Troisième point, comment accueillir la bienveillance de Dieu? Eh bien, faire confiance dans le Seigneur. Ah, la question de confiance, hein? C'est une question primordiale. Hein? L'alliance entre deux personnes, c'est une question de confiance aussi. Lui avouer que parfois, honnêtement, nous nous méfions des plans qu'il a pour nous. Nous nous disons, qu'est-ce qu'il va encore m'arriver? Je ne sais pas si vous arrivez ça. Hein? Il y a des périodes comme ça. Hein? Tout nous tombe dessus. On s'est dit, j'ai l'impression que plus je prie, et plus ça complique les choses. Alors, on ne va pas arrêter de prier, parce que, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et nous voilà entraînés dans des eaux troubles. Ésaïe 30, verset 5, c'est ce que dit le Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu, et non pas dans nos pensées, et le repos, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors j'étais un peu impressionné par ce texte. Je me dis, mais Dieu aurait mieux fait de dire, c'est dans le repos que sera ton salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais il ajoute la deuxième personne du pluriel, votre salut et votre force. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons besoin de la communion fraternelle pour apprendre à lui faire confiance. Oui, Dieu nous a donné des frères et sœurs pour cela. Lorsque mon niveau de confiance commence à diminuer, d'autres le portent. Supportez-vous, portez-vous les uns les autres. Eh bien, mon frère, ma sœur, tu nourris cette confiance aussi et tu m'encourages. Et Dieu me rappelle dans les témoignages que j'entends qu'il est, lui, digne de confiance. Et le dernier point qui va nous intéresser, c'est bien sûr comment recevoir, accueillir les desseins bienveillants de Dieu. Eh bien, en considérant que nous sommes l'objet des intentions bienveillantes de Dieu. Il a tout fait pour nous et il continuera à le faire. Et c'est ce que le psalmiste s'écrit. Éternel, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Alors tout à l'heure, on a chanté « Grande et merveilleuse ». Hein. Alors on avait un frère dans l'église, dans une église à Marseille, on entendait sa voix, bon, alors, qui est comparable à toi? Et on entendait une voix qui criait « Personne !» Ah, c'était génial. Alors, j'ose pas le faire ici pour pas déranger. Mais on devrait dire « Personne n'est comparable à Dieu ». C'est vrai. Qui est comparable à Dieu? Absolument personne. Tu as multiplié tes merveilles et tes desseins. Et le psalmiste dit « Rien n'est comparable à toi ». Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Après, il ajoute quelque chose que lui ne peut pas faire, mais que Jésus a fait pour lui. C'est une belle prophétie. Hein. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il n'a rien demandé à David. Et Jésus a accompli tout cela. Et oui, il a accompli son plan à la croix. En intervenant de manière puissante dans nos vies, Dieu a déjà accompli un miracle. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a fait passer de la liberté au salut. Penses-tu sérieusement qu'il va s'arrêter là? C'est bon, vous êtes sauvés, retournez à la maison. Pas du tout. Il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous a accordé une nouvelle vision spirituelle des choses. Jésus n'est pas simplement venu pour combler un vide en nous pardonnant ou nous accordant le salut, mais bien plus, il est venu pour régner en nous. Romains 14, verset 7-8, « En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes acquis. » Nous sommes au Seigneur. Penses-tu sérieusement que Dieu va s'arrêter là dans ta vie? Notre grand problème en réalité, c'est entre nous ça. C'est que nous aspirons tous au bonheur. Et nous avons envie de suivre le Seigneur. Nous avons le désir de le suivre. Mais en réalité, nous fournissons si peu d'efforts. Ou alors, si nous fournissons des efforts, c'est avec peu de persévérance. Alors nous nous satisfaisons d'un confortable salut qui va nous amener jusqu'au ciel, sans mesurer pleinement ce que Dieu attend de nous. Comme cet homme qui avait tellement peur de ce que Dieu attendait de lui, qu'il a préféré laisser son histoire de conversion à bien plus tard, bien plus tard. Eh oui, Dieu attend aussi quelque chose de nous, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, Dieu n'a pas créé le monde pour nous, mais il nous a créé ainsi que le monde pour lui. Ah, ça change, hein? Le monde n'est pas créé pour nous, mais nous avons été créés pour lui. En conclusion, Paul dit, là, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alors c'est Raphaël Charrier qui dit ceci, tu n'es pas simplement appelé à faire ce que tu faisais avant, ou à juste respecter une liste d'interdits, tu as été sauvé pour glorifier Dieu. Il n'y a aucun domaine de ta vie dans lequel la gloire de Dieu ne soit pas en jeu. Il n'y a pas d'entre deux ni de façon neutre d'agir. Ah, nous sommes appelés à vivre pour sa gloire. Son objectif est de révéler sa gloire par Jésus. Il a déjà fait dans nos vies quand nous nous sommes convertis, quand Jésus est venu pour nous libérer je me pose la question devant Dieu. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, je vais glorifier ton nom? C'est la prière que je m'adresse depuis quelques jours le matin. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais glorifier ton nom ou je vais vivre sur des acquis? Ce matin, j'aimerais exhorter chacun de nous à se positionner devant Dieu. Vraiment, chacun. J'aimerais exhorter les jeunes à considérer leur vie professionnelle comme une mission où ils vont expérimenter les desseins bienveillants de Dieu et les glorifier. J'aimerais exhorter les couples dans leur rapport mutuel à faire preuve de compréhension où ils vont expérimenter les desseins bienveillants de Dieu et glorifier son nom. J'aimerais exhorter les parents à voir l'éducation comme une vocation où ils vont expérimenter les desseins bienveillants de Dieu et glorifier son nom. J'aimerais exhorter nos aînés à persévérer encore dans le ministère de la prière avec application où ils vont expérimenter les desseins bienveillants de Dieu et glorifier son nom. Mais tout cela commence d'abord par toi, par moi. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, vraiment de tout cœur, à relever le défi de glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances que tu vis. Que Dieu te bénisse et te visite. Amen.